Bonjour.
Pas de présentation, on va aller direct au but. Ce partage que je vais faire avec vous, c'est pas parce que je suis un spécialiste, c'est pas parce que j'ai tout compris, c'est pas parce que je veux vous donner des leçons. C'est 35 ans de vie chrétienne, avec ses hauts et ses bas. Quelques expériences qui viendront parsemer mon discours. Et puis, aussi, ce travail-là en particulier sur ce thème, c'est le fruit de plusieurs années donc, pour le REF, responsable en formation. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont déjà fait le REF, ça va être une redite. Peut-être que ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça leur donnera envie. Mais je crois que c'est tellement important et essentiel pour notre marche chrétienne. Alors, vous savez, je ne sais pas comment Dieu vous parle. Bon sujet, ça aussi. Moi, j'ai appris à ne rien laisser passer. Je pense que Dieu me parle tout le temps au travers de plein de choses différentes. Et donc, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, j'y prête attention. C'est pas venu d'un coup, mais je réalise après coup. Je dis, tiens, si j'avais bien écouté, je savais ça, ou j'aurais pas fait ça. Et donc voilà, et entre autres par des livres, ou des fois des petits commentaires que j'entends. Alors, je vais vous parler de livres aussi. Malheureusement, c'est en anglais, mais il y en a qui sont en français quand même. Je suis tombé sur ce livre de Richard Foster, qui est pas vraiment de nos milieux. Mais ça a été traduit en français, c'est un vieux bouquin qui s'appelle « L'éloge de la discipline ». Je suis prêt à l'acheter à prix d'or s'il y en a un qui a une version française. Même sur Amazon, on ne le trouve pas. Par contre, en anglais, ça ne coûte rien du tout, quoi. Donc si vous lisez l'anglais, ne vous gênez pas avec ce livre. Et en fait, ce livre, je suis tombé dessus en lisant un autre livre de Swindle, qu'on connaît un peu plus. Et c'est ça qui m'a amené qui m'a vraiment ouvert la voix et l'esprit par rapport à cette question. Et puis, il y a aussi pas mal de Piper dans mes influences. Et voilà la citation de Richard Foster, qui, à l'époque où je le lis, c'est un moment où je ne vais pas très bien. Ça a vraiment fait écho dans mon cœur. Et il dit ceci. « La superficialité est la malédiction de notre temps. » La doctrine de la satisfaction instantanée est un problème spirituel de premier ordre. Le besoin le plus flagrant aujourd'hui n'est pas pour un nombre plus important de personnes intelligentes ou douées, mais pour des personnes profondes. Et pour nous, alors quand je dis nous, voilà, c'est un nous... un peu royaliste là, qui sommes en place de responsabilité, mais tout le monde est en place de responsabilité, que ce soit le papa, la maman et d'autres un peu plus sur le devant. Une phrase d'Oswald Chambers m'a aussi beaucoup parlé, il dit ceci, la mesure de la valeur de notre activité publique pour Dieu, et cette activité publique pour Dieu, vous voyez, c'est effectivement quand on est devant les autres. Que ce soit devant ici ou simplement au culte ou à la réunion. La mesure de la valeur de notre activité publique pour Dieu est la profondeur de la communion que nous avons avec lui dans le privé. Et je trouve que ça touche une corde sensible aussi par rapport au rôle que, d'une manière ou d'une autre, on peut tous jouer dans la vie, avec plein de monde, mais de toutes les manières, il faut bien réaliser que devant Dieu... ça passe pas, quoi. Mais malgré tout, c'est pas suffisant de penser comme ça. Je l'ai remarqué dans ma vie personnelle. Puis ça, c'est pour faire plaisir à David, une citation de McShane. C'est écossais bien connu. Merci. Je savais qu'il fallait que je capte l'attention de David d'une manière ou d'une autre. Ce qu'un homme est quand il est seul à genoux devant Dieu, c'est ce qu'il est réellement, ni plus ni moins. Voilà. Un temps pour Dieu, c'est considérer effectivement tout ce qu'on a à gagner à se placer réellement devant Dieu pour l'écouter. Alors c'est des choses qu'on a appris. En fait, quand quelqu'un se convertit, on lui dit tout de suite, voilà, hein, il faut que tu arrêtes les mauvaises habitudes, et puis je vais te dire ce que sont les bonnes habitudes. Hein. Donc tu lis ta Bible tous les jours, tu pries, tu vas aux réunions, t'adores, tu vas au culte. Voilà, le programme, il est rempli, et c'est bien. Tu es en train de dire qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Mais c'est quoi le but? Et surtout, qu'est-ce que ça change? Si on fait quelque chose, on doit s'attendre à ce que ça ait un effet dans notre vie. Et peut-être, des fois, on peut considérer, bon, ça a l'air de marcher pour les autres, mais en tout cas, bon, moi, je le fais, parce qu'il faut que je le fasse. Alors, mon discours à ce matin, j'espère, en tout cas aujourd'hui, c'est pas justement simplement pour que ça nous passe au-dessus de la tête, mais on essaiera d'être assez concret. Donc, au première session, je vais plus parler de notre motivation et voilà, parce qu'il y a vraiment une joie et un plaisir à passer du temps avec Dieu. La deuxième session, on parlera un peu plus de comment le faire, et en particulier au travers de la méditation. Et puis la troisième session, parce que la suite au niveau de ce qu'on appelle les disciplines spirituelles, c'était un peu technique et je n'avais pas envie d'aborder ça pendant le culte. Donc pour le culte de demain, je traiterai un exemple biblique. Qui nous permettra de détailler ce thème. Voici ce que dit encore Charles Swindoll. Ça, c'est un petit livre qui m'a touché, mais si j'ai le temps, à un moment, je vous ferai un petit témoignage. Mais là, comme j'ai beaucoup de choses à dire en peu de temps, je ne vais pas y aller tout de suite. Il dit « Une de mes préoccupations principales est l'activisme de tant de croyants. Pour eux, la tyrannie de l'urgent n'est pas une vue de l'esprit, mais un fait réel dans leur vie. » Cela les laisse avec le sentiment d'être épuisés, impatients, quelquefois avec du ressentiment et le pire, vide. Voici le cri d'un pasteur qui est venu me voir après une réunion. Personne autour de moi ne sait cela, mais ma vie n'est qu'une vapeur. Je me sens seul, creux, superficiel, esclave d'un emploi du temps qui ne me laisse aucun répit. Alors si c'est votre sentiment aujourd'hui, ben c'est très bien. Bienvenue au club. Le monde s'est accéléré, oui. Vous êtes d'accord? C'est des banalités, ça. Mais, en fait, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde est pris dans ce tourbillon, hein, quelles que soient nos activités. Je ne sais pas si c'est Gilles Finchelstein, c'est un journaliste qui écrit pas mal de bouquins. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La dictature de l'urgence. Et il compare ce monde, vous savez, au film avec Sandra Bullock, ou le film Speed. Vous savez, ils sont tous coincés dans un bus, là. Et si le bus ralentit en dessous de 80 km/h, il explose. Vous avez vu ce film? C'est un bon film. C'est un peu vieux, maintenant. Et alors, donc, il faut vivre vite pour ne pas mourir. Ça, c'est la parabole du monde moderne. L'urgence, c'est cette suractivité, choisie ou subie, qui touche de plus en plus de gens. Un supposé remède pour les jeunes contre ce nouvel ennemi, l'ennui. Une conséquence des possibilités infinies ouvertes par les nouvelles technologies. Une réalité pour les adultes, et notamment pour les femmes, qui tentent de concilier toute leur vie. Une souffrance pour beaucoup de salariés victimes des nouvelles formes d'organisation du travail. Pour le dire autrement, l'urgence, c'est tout, plus vite et tout de suite. Alors j'ai l'exemple de la finance, là, je ne sais pas si j'ai le temps, mais vous savez qu'on a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour gagner 60 millisecondes dans les transactions boursières entre New York et Tokyo. Et enfin, c'est l'échelle à laquelle on travaille aujourd'hui. Il faut savoir que les 2/3 des ordres de bourse sont passés sur ce qu'on appelle des bourses de trading house frequency, où on passe des ordres au travers de ces cas. Donc c'est le monde, la folie. Alors voilà ce que dit Finkelstein. « Abat la dictature de l'urgence, que Zara change ses collections de vêtements tous les mois, que l'on mange de plus en plus en fast-food, que les actionnaires se défassent de leur titre tous les ans au lieu de tous les 8 ans en 60, que la chronique d'Alain Duhamel soit passée en 10 ans de 185 mots minutes à 199. Tout cela donne le tournis et confirme qu'on n'a plus le temps. D'ailleurs, les Français sondés par Ipsos affirment qu'il leur manque 4 heures par jour malgré l'accélération phénoménale de leur vie à coups de portables et de TGV. Le lecteur ne peut souscrire à cette mise en accusation de l'urgence, ne peut que souscrire cette suractivité choisie ou subie qui touche de plus en plus de gens et qui les épuise. Alors pour trancher ce débat, il faut commencer une véritable enquête dont la conclusion est simple. L'urgence s'insinue, sans même que nous le mesurions, dans l'ensemble de notre vie, de nos vies, dans nos vies personnelles, professionnelles, vie publique, et j'ajoute, vie d'église et vie spirituelle. Un seul remède, ralentir. Et il y a une mode qui est en train d'arriver, c'est la slow attitude. Ouais. Toutes les... Voilà. Donc, un magazine de décoration, les canapés nous invitent à la slow attitude. Ralentir, c'est se poser pour réfléchir, choisir selon ses convictions, maîtriser son temps pour apprendre à changer de vitesse selon nos différentes activités. C'est la manière la plus moderne et la plus vive, libre de vivre. Alors, voilà, cette petite introduction pour ce que je pense qu'effectivement, bien que nous soyons chrétiens, évangéliques, bien sous tout rapport, cette frénésie de l'urgence nous a touchés aussi. Et nous ne sommes pas immunisés contre cette tyrannie de l'urgence. Ensuite, heureux. Vous voyez, c'est tout le paradoxe hein, de faire un week-end d'église où il y a déjà un programme et on sait qu'il faut finir à telle heure. Et je suis le premier stressé parce que c'est terrible. Et quand on a fait ce cours au REF, les réfiens, ils ont dit, mais on ne peut pas continuer le programme comme ça, quoi. Il faut qu'on se pose. Et on a pris une soirée où il n'y avait rien à faire. Et tout le monde est parti dans son coin avec sa Bible. Et, alors pour moi, c'était que du bonheur, quoi. Mais c'est prendre conscience qu'à un moment, il faut digérer, s'arrêter, ralentir. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je reviendrai. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Examine-moi, ô Dieu, vous connaissez, hein, c'est le psaume 46. Connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. J'ai peur que le fait de ne pas prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir ait des effets sur notre relation avec Dieu, et à tel point que je pense que dans beaucoup de situations, notre service pour Dieu a pris la place de notre relation avec Dieu. Et on place pour nous le fait de faire quelque chose pour Dieu est aussi important que la relation qu'on a avec Dieu. Et bon, voilà, vous déclinez ça où vous voulez dans vos relations professionnelles, relations humaines, vous savez très bien que ça ne marche pas. Et que ce n'est pas simplement parce qu'on fait quelque chose qu'on peut connaître quelqu'un. Alors bon... je n'ai pas trop le temps, mais je pense à Marthe et Marie. Pour moi, c'est un exemple flagrant, parce que Marthe et Marie, on a deux tempéraments différents. Et voilà, et moi, je peux tellement bien m'identifier à Marthe. Je dis souvent, l'inactivité m'angoisse. Et c'est terrible. Et pour faire du bien, pour faire quelque chose. Et on a cette Marthe dans sa cuisine, là. Ouais, bien sûr, ils viennent là, ils sont tous au salon, c'est super, hein, les mecs, voilà, vous écoutez le maître, c'est joli, quoi. Mais qu'est-ce qui va... S'il n'y a personne pour faire manger à midi, et vous imaginez les pensées qui passent par ta tête, et puis bon, les couverts qui tapent de plus en plus fort, parce que pour moi, c'est un signal d'alarme, ça. Je sais que je suis dans le rouge quand je commence à penser que les gens ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et alors là, tu te dis, oulala, il y a quelque chose qui tourne plus rond. Et ce qui se passe, je veux dire l'attitude de Marc qui rentre en colère dans la salle, puis en plus la manière dont elle dit les choses, quoi, devant Jésus, c'est énorme. Elle y a réfléchi pendant un moment. Tu sors pas une phrase comme ça instantanément, quoi. Et puis Jésus, la réponse de Jésus, elle est violente. Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors si tu es plutôt du type hyperactif, tu as du mal avec la réponse. Jésus ne dit pas que Marthe ne fait pas une bonne chose, dans le sens où... Mais elle n'avait pas la bonne attitude. Et je crois qu'il ne faut pas que notre service, justement, nous sépare du maître. Au contraire. Voilà, je fais court. Je remarque aussi, et ça c'est par rapport à des choses qui se passent dans l'Église. En France, c'est typique quand même. Tout s'arrête pendant les vacances. Hein? Et à la réunion de rentrée, alors là c'est quelque chose, la réunion de rentrée, hein. C'est comme si on partait avec la page blanche, et il faut mettre des noms, il y a tout à faire. Ça, ma femme, elle est toujours très surprise, c'est bizarre quand même, parce que bon, voilà, je veux dire, d'une année sur l'autre, mais non, c'est comme ça, on est français, on assume, hein. Et il faut, qui est-ce qui va faire ça? Et il manque quelqu'un là, Et des fois, j'ai des réunions, alors je parle des églises USES, hein, je ne suis plus à USES maintenant, mais où il y avait une culpabilisation de la part du responsable de l'école du dimanche, tu vois. Nos petites têtes blondes, là, da, 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 et vas-y. Pour qu'on ait un groupe de 4 animateurs pour les 2 enfants du groupe 2-3 ans. Je te dis, on est en train de monter des usines à gaz. Et de culpabiliser les gens pour faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Vous voyez, il y a des nuances dans tout ça. Mais je me dis, quels sont les critères qui font que nous nous levons pour servir? Dans Acte 6, on avait un problème comptable. D'accord? L'argent n'est pas distribué équitablement. Les anciens pour nous aujourd'hui, ils se relèvent les manches parce qu'ils entendent ça, les anciens, c'est à eux de gérer quand même, on ne fait pas comme s'il n'y avait rien. Mais les apôtres, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, trouver des comptables, quoi. Il n'y a pas quelqu'un avec un diplôme ou un prof de compta ou... Non, non. Choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Et les premiers critères, c'est des critères spirituels. Et ces critères, ils sont tellement spirituels que quand tu vois ce qu'il arrive à un Étienne, tu dis que les gars, c'était pas juste des gras de papier. Donc il y avait une profondeur dans ces hommes qui les rendait aptes au service. La première condition, et je trouve qu'elle est vraiment... fondamentale, c'est de désirer Dieu. Alors ça, c'est quelque chose que... C'est Piper qui m'a fait découvrir ça. Je ne l'ai pas là, je l'amènerai. Il existe en français, ce bouquin. Mais prendre plaisir en Dieu, c'est toute la théologie de Jonathan Edwards qui développe cela. Il y a vraiment une joie et un plaisir à connaître Dieu. Et le plaisir et la joie qu'on découvre à connaître Dieu, glorifie Dieu. Parce qu'on se réjouit en lui. C'est notre réponse à ce qu'il est pour nous. Alors je vois ça dans la vie de David. J'ai prêché une ou deux fois sur David à Sonra, déjà, mais vous vous en souvenez plus. Mais... j'ai souvent dit, j'ai enseigné ça quand je faisais la vie de David, que là, un homme selon le cœur de Dieu, vous connaissez hein, la manière dont David il a, excusez-moi je parle, j'espère que ça fait écho, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous comprenez ce que je dis, la manière dont David est choisi, il est choisi par opposition à un Saül qui n'a pas été à la hauteur, d'accord, qui n'a pas obéi sur une petite chose qui ne me paraît peut-être pas aussi importante que ça, mais je ne rentre pas dans les détails, et donc par contraste, Dieu choisit David et il dit, c'est un homme selon mon cœur. Donc, si je veux pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. N'est-ce pas? Ça m'intéresse. Et donc, pendant longtemps, j'ai enseigné que c'est parce que c'était un homme qui savait se repentir. David, on connaît Bathsheba, le psaume 51. Et puis, en vieillissant un peu, je me dis, après tout, se repentir, c'est le béaba de la vie chrétienne, quand même. Si c'est ça qui fait que c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas très profond, quoi. Et en fait, c'est aussi, pour ça je vous dis, c'est 35 ans de vie chrétienne. J'ai découvert les psaumes. Alors, bon, moi, ça fait 30 ans, 35 ans que je lis la Bible en un an, voilà. C'est comme ça. Mais alors, les psaumes, il fallait vite les lire, quoi. La poésie, je trouve que c'est une manière, inutile de dire des choses qu'on peut dire plus facilement, quoi. Là, ça me branche juste pas. C'est comme ça, quoi. Je veux dire, c'est compliqué, c'est ça, et puis ça me fait rien, quoi. Là, je suis pas vraiment émotif dans mon... Mais j'ai découvert les psaumes avec l'âge, je pense, et puis avec ma femme aussi, qui a pas du tout la même sensibilité que moi. Mais j'ai découvert dans les psaumes que justement, David, on voyait l'âme de David. On voyait le cœur de David dans les psaumes. Bon. Et je découvre dans David, au travers des psaumes, et après... Quand tu relis les événements de sa vie en parallèle, tu mets les choses avec, je découvre un homme qui ne peut pas se passer de la présence de Dieu. Il a une aspiration énorme pour être dans la présence de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la beauté, dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Wow. Je ne sais pas ce que ça vous fait, hein, mais voilà, contempler la beauté de l'Éternel. C'est David qui... Et David, sa personnalité, elle est complexe. Hein. Il y a le David guerrier, d'accord ? Il y a le David séducteur, il y a le David poète, il y a le David musicien... c'est une personne. Mais n'empêche que, il dit, voilà, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Alors, pour vous dire que j'ai du mal avec la poésie, moi je divisais, un jour vaut mieux que mille ailleurs, je fais des rapports et tout ça, mais c'est simplement pour montrer l'échelle, l'importance que cela a dans la vie de David. Et puis, bon, il y a le psaume 42, voilà, ceux qui ont fait le ref, ils connaissent le psaume 42 maintenant, le coup de la biche, là. Parce que, voilà, la biche, pour moi, c'est pas naturel. Comme une biche soupire après un courant d'eau, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, et pour moi, excusez-moi, je pourrais pas penser que vous en êtes au même niveau que moi, mais... Qu'est-ce que ça veut dire dans l'imagerie, dans la vie d'un David? Comment est-ce qu'on peut transposer la biche au 21e siècle, toi? Parce qu'une biche auprès d'un courant d'eau, moi, ça ne me parle pas. Et mon âme soupire, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée. Et alors voilà, la vie de David, c'est quoi? C'est une vie de chasse, c'est une vie de militaire, c'est une vie de jouer à cache-cache avec Saül. Donc il a connu ces endroits où il était seul, où sa vie est tenue à un fil, où si j'ai pas ça, je meurs, quoi. C'est ça qu'il est en train d'exprimer. Alors moi, je l'ai traduit en Wi-Fi, tu vois. Voilà, un jour, par exemple, voilà, un jour de finale de Coupe du Monde, et tu te retrouves dans un lieu isolé, sans télévision et sans Wi-Fi, quoi. Et là, tu dis, là, ton âme reflète à peu près l'aspiration de David qu'il a pour Dieu, quoi, parce que c'est tellement, il y a tellement un vide en toi, tu dis, c'est pas possible, je vais pas voir la finale. Voilà, mais déclinez-le comme vous voulez dans votre vie avec des trucs qui vous parlent. Moi, voilà, ça, c'est mon truc à moi, mais. Le cri de David, vous voyez, il faut transposer l'imagerie d'un David pour comprendre la profondeur de ce qu'il est en train d'exprimer. Quand vous lisez le psaume 46, le psaume Obama, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. dans quelles circonstances était David quand il a écrit ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dans mon expérience? Comment est-ce que je décline ça dans ma vie de tous les jours, quand ça va mal? Est-ce que je connais ce Dieu que David, dont David parle? Je me souviens avoir prêché à la rue Sonnera sur 1 Samuel 30, verset 6. L'Éternel, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Le fameux épisode de Tziglag. Je vais très très vite. Mais ça montre les capacités qu'un David il avait pour rebondir. Quand tout part autour de lui. Et finalement, sa seule ressource, c'était de retrouver en l'Éternel des forces. Et ça, c'est d'ailleurs avant qu'il devienne roi. Comme quoi, à mes yeux, ça fait partie de la formation aussi de quelqu'un qui va servir Dieu. Je vois ça aussi dans la manière dont David est, dans une circonstance particulière, assez insensible au regard des autres. Vous savez, quand il danse devant l'Éternel dans 2 Samuel 6, hein, et puis que ça lui est reproché, t'avais vraiment l'air de n'importe quoi, danser à demi nu devant tout le monde. Mais il dit, c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Alors ça, bon, pour le décliner en église, c'est déjà un petit peu plus délicat. Mais néanmoins, je crois qu'il y a une dimension ici. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut danser. C'est pas ça, vous comprenez bien mon discours. Mais il y a une dimension dans l'adoration et dans la joie qu'on peut manifester devant le Seigneur qui est évidente dans la vie de David. Et puis, voilà, David aussi, avec la mort de l'enfant, du premier enfant de Bathsheba, vous savez, tant qu'il est vivant, tant que l'enfant est vivant, il jeûne, il a pris le sac et la cendre, et puis il entend les serviteurs chuchoter, il comprend que finalement il doit être mort. Et puis là, il prend la douche, il se parfume et tout, et les autres, ils comprennent rien. Ils disent, attends, quand il était encore vivant, tu jeûnais, maintenant qu'il est mort. Oui. Et ça me montre quelque chose de la profondeur de la relation de Dieu, de David avec Dieu. Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et j'ai pleuré car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. Voilà ce que je vois dans la vie de David. Et donc notre vie aussi, dans notre vie, nous devons développer cette capacité à recevoir de Dieu, vivre avec lui et trouver en lui ce dont nous avons besoin. Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices ». Beau ce psaume. « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire ». Ça peut paraître incroyable. Tu mets une pièce et hop, tu retournes, tu reçois ce que tu veux. Bon, le verset d'avant met dans le contexte, mais je crois que ce que ça dénote, c'est que lorsque nous avons cette proximité avec Dieu, on pourrait mieux le traduire en disant délecte-toi en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. C'est un peu lourd, quoi. Mais délecte-toi de l'Éternel. Il te donnera ce... En fait, quand on se délecte de l'Éternel, quand on est comblé en lui, nos aspirations sont forcément en accord avec ce qu'il désire pour nous. Et c'est là où il y a une convergence entre la volonté de Dieu et ce qui satisfait aussi notre cœur. Alors, on parle de discipline spirituelle. Alors, voilà, on peut discuter longtemps sur l'appellation, c'est comme ça que ça s'appelle. Discipline, on n'aime pas trop le mot, alors on peut dire, quelqu'un qui m'a vraiment interpellé là-dessus, il me dit, tu changes ton titre, parce que discipline, ça fait da-da-da. Ben ouais, mais j'ai pas trouvé d'autres titres, et donc on va faire avec discipline. Mais il y a des bonnes disciplines, vous êtes d'accord? Quand on fait du sport, dans quelle discipline? Voilà, c'est pas forcément, voilà, discipline, quelque chose de où on sert la vis, d'accord? Donc il faut l'entendre dans ce sens-là. Et donc, ces disciplines, ben voilà, je l'ai déjà dit, la lecture de la Bible, la prière, là, là, là. Est-ce que ça change quelque chose? Par exemple, la lecture de la Bible. Bon, donc moi, je vous ai dit que je suivais Marc Chen, voilà, Marc Chen, hein, un programme de lecture chaque année. Donc, tu lis une fois l'Ancien Testament et deux fois le Nouveau Testament et les psaumes. Okay, tu fais ça, tu remplis ta case. Donc là, je suis un peu en retard, donc je ne montre pas mon truc parce que je préfère le montrer quand je suis en avance. Quand je suis en retard, je me dis, ça y est, si Dieu revient, il va falloir que... si Jésus revient... on est tordu, hein, quelque part. Mais à quoi ça sert de lire la Bible comme ça, Pierre? Ah, c'est bon, j'ai lu ma Bible, j'ai lu mes quatre chapitres, je suis clean, tout va bien. Et on sait que c'est tellement important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais est-ce qu'on sait faire de la parole de Dieu une nourriture? Vous savez d'où est-ce que ça vient? L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est dans le Deutéronome. Deutéronome 8. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il, c'est Dieu. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc là, il y a quelque chose d'éducatif au travers de l'expérience du peuple d'Israël dans le désert, et souvent des situations où notre vie ne dépend que de la provision de Dieu, et c'est de cette manière-là que la parole de Dieu devient réellement une nourriture. En fait, tu ne peux pas te passer de nourriture. Or, on se passe très bien de la lecture de la Bible, n'est-ce pas? Ou il n'y a que moi? Vous voyez, c'est là, je pense qu'il faut aller un petit peu plus profond quand on évoque simplement la lecture de la Bible. Encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas la lire, mais qu'il faut qu'elle fasse vraiment, qu'elle produise un effet en nous. Et donc, les disciplines spirituelles ne sont pas une fin en elles-mêmes, mais sont un moyen de nous amener à l'endroit où Dieu peut faire quelque chose avec nous. C'est dans ce sens-là. On n'est pas en train de faire quelque chose pour gagner quelque chose ou pour produire quelque chose en nous, mais plutôt pour être à la disposition de Dieu, pour qu'il puisse faire quelque chose avec nous. On est face à deux écueils, croire qu'on peut faire quelque chose de nous-mêmes, okay, et puis le deuxième, c'est le légalisme. Je l'ai un petit peu décrit avec la lecture de la Bible, mais malheureusement, le légalisme, c'est un chemin de mort qui vont transformer ces disciplines spirituelles en une loi. Hein. Et donc voilà, j'ai lu ma Bible, je suis un bon chrétien, j'ai pas lu ma Bible. Et puis voilà, tout le monde sait que tu lis ta Bible en un an, mais sauf que ça fait un an que tu la lis plus, et puis tu continues à faire croire que, et puis voilà, et le diable, t'as donné au diable un bon bâton pour t'accuser et te culpabiliser. Donc attention à cela, c'est les deux écueils qu'il va falloir éviter. On ne va pas pouvoir produire en nous-mêmes quoi que ce soit de bon. Ça serait, dans le pire des cas, ça serait accentuer notre propre volonté. Quand vous voyez la critique de Jésus contre les pharisiens, qui étaient quand même au top, qui est-ce qui jeûne trois fois par semaine ici? Et qui prie comme ils priaient. Hein? Mais qu'est-ce qui n'y allait pas? C'était leur motivation. Et donc Jésus le dit, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi, vous n'entrerez pas dans... Et c'était que des bonnes choses. Il parlait de la prière, du jeûne et de l'aumône. Parce qu'ils le faisaient pour que les hommes les regardent. Ils aiment prier pour être vus des hommes, et ainsi de suite. On peut couper ton truc une seconde, hein? J'aime bien frustrer les gens qui ne sont pas là. Et donc, je vous dis des choses. Oh. En fait, je veux juste vous donner quelques nouvelles de Rénal Kozicki. Vous savez tous qu'il est atteint de trucs. Je vous donne, si vous voulez plus d'informations sur l'état de santé, je pourrais vous donner plus d'infos là-dessus. Donc, les disciplines spirituelles nous ouvrent la porte à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Notre propre volonté est insuffisante, et donc c'est un don de la grâce. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Non. Nous pratiquons ces disciplines spirituelles pour nous placer devant Dieu, afin qu'il puisse nous transformer. Quand vous lisez Galates, le fruit de l'esprit, on se rend bien compte que c'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous ce qui est agréable à Dieu. Et il y a une phrase qui a fait tilt dans le commentaire de Stott sur Galates, sur Galates 6, il dit « La sainteté est une moisson ». Et ça a fait tilt. Parce que, vous voyez, là on a l'équilibre. Le cultivateur qui fait rien, il va rien récolter. Mais le cultivateur va rien faire pousser non plus. Il peut faire tout ce qu'il veut devant les graines, c'est pas lui qui les fait pousser. Mais il a tout fait pour que Dieu puisse faire croître. Et c'est là où ça a fait écho avec dans mon cœur, la sainteté est une moisson. Et donc on investit, on utilise tout ce que Dieu nous donne, et on plante, et on sème, et on arrose. Et le résultat, c'est le Saint-Esprit qui produit en nous du fruit qui est à la gloire de Dieu. Donc c'est à ça que ça sert les disciplines spirituelles. Juste une parenthèse encore sur un très bon livre de Timothy Keller, que je sais que vous, plusieurs qui le connaissent, hein, Les idoles du cœur. Mais comment est-ce qu'on remplace une idole? Et on est dans la même veine de pensée. Tu ne peux pas juste décider d'enlever une idole de ton cœur. Il faut la remplacer par autre chose. Et notre idole par excellence, qu'on n'appelle pas idole, c'est justement Dieu lui-même. Jésus doit devenir plus beau à votre imagination, plus attirant à votre cœur que vos idoles. Voilà ce qui remplacera vos faux dieux. Si vous arrachez l'idole sans planter l'amour de Christ à sa place, l'idole repoussera. C'est dans cette dimension-là que je voudrais que nous allions ensemble. Ouais, mais vous ne voulez pas pique-niquer à 2 heures quand même. Bon, je pense que comme intro, c'est bien. Cette idée de joie et de bonheur à connaître Dieu, en fait, c'est la question de la motivation. Je pense qu'on a tous du temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Ouais? Tout ce qu'on aime. Et vous voyez, ça peut complètement changer. Il me semble que ça peut changer, justement, notre regard sur les disciplines spirituelles. Si je fais quelque chose parce qu'il faut que je le fasse, il faut aller au culte, il faut que je me lève, je bossais toute la semaine, dimanche, samedi, on a fait les courses et le ménage, et alors que tout le monde fait la grâce matinée le dimanche, moi, il faut que j'aille au culte. Et ouais, ça, c'est, je comprends très bien. Comment est-ce qu'on peut changer de paradigme? En fait, le culte, c'est une occasion extraordinaire de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Alors, je sais qu'il y a des cultes, on n'a pas forcément toujours ce sentiment-là quand on sort du culte. Mais c'est peut-être parce que c'est qu'on n'a pas la bonne attitude aussi dans le culte. Mais cette notion donc de joie et de bonheur qu'il y a à connaître Dieu, à vivre dans la proximité avec Dieu, c'est tout ce que développe Piper. Je trouve que ça fait une saine motivation pour chercher à développer notre relation avec Dieu. On cite souvent le trou en forme de Dieu là, qu'il y a dans nos cœurs. Voilà la citation exacte de Blaise Pascal. Il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide, qu'il essaie de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans les présentes. Or, toutes sont inadéquates, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et on arrive à cette conclusion, peut-être après quelques... je ne sais pas quoi d'ailleurs, que seul Dieu est celui qui peut réellement satisfaire tous nos besoins. Et tout ce qu'on essaie de mettre en place, qui prend cette place-là, alors ultimement est une idole, et ça peut être une bonne chose, mais ne remplira pas notre cœur. Et alors c'est un peu comme faire, on fait un peu du ménage, on déblaye tout le reste pour aller à l'essentiel. Et c'est pour ça que là, un temps pour Dieu, je ne sais pas si c'est le bon titre, comme tu disais François, toi, on ne va pas s'arrêter au titre, mais notre relation avec Dieu, la connaissance de Dieu, l'intimité avec Dieu, est la chose qu'on doit chercher, c'est la priorité numéro un dans nos vies. Et je me rends compte que c'est pas gagné, c'est souvent un combat pour toutes les choses que j'ai pu dire par rapport au temps et ainsi de suite, mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas découvert ou goûté le bonheur et le bien qu'il y a à vivre cette proximité. Peut-être qu'on ne sait simplement pas le faire, peut-être qu'on ne nous a pas appris à le faire. Et donc c'est vraiment ça, cette introduction sur les disciplines spirituelles, c'est de pouvoir se placer dans cette attente, de dire voilà, Dieu veut me donner réellement ce qui va combler mon cœur et satisfaire mes besoins, me remplir. Donc, comment faire? C'est ce qu'on essaiera de voir la prochaine fois. Ouais. C'est en fin d'après-midi, hein, c'est ça? Ouais, je pense que c'est bien que je coupe là et qu'on puisse simplement peut-être prier ensemble une prière de Paul. Alors ça, c'est un autre bouquin aussi qui m'a... Je vous donne un petit peu tout en vrac, là, mais c'est important pour moi. Le bouquin de Carson sur la prière, et vous savez, quand il prie dans Éphésiens 3, on peut le lire ensemble. Pour connaître Dieu. Et l'église aux Philippiens, c'est pas Colosse, c'est pas Corinthiens, d'accord ? Les Éphésiens, ils étaient plutôt bons, quoi. On est d'accord, hein, c'est à vue humaine, c'est une bonne église, Éphésiens. Et donc, la prière de Paul aux Éphésiens, c'est pour qu'ils puissent connaître. Dans Éphésiens 1, c'est pas Éphésiens 3, c'est pourquoi moi aussi, et donc peut-être on peut faire cette prière de Paul pour les Éphésiens, notre prière, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Et quand on lit cette prière de Paul pour des frères et sœurs d'une église, je me dis que des fois, on est tellement loin de ce type de prière dans nos prières. Et que là, on est à l'essentiel. Et que quelque part, nos prières pour des choses précises, je vous donne un exemple, il vaut ce qu'il vaut, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. À la fin d'un culte, il y a une sœur qui dit « Il faut prier pour mon fils qui passe le permis cette semaine. » Je dis « Je ne sais pas si j'ai envie de prier pour ton fils, pour qu'il ait son permis. » Je comprends qu'économiquement, mes enfants ont passé le permis et que c'est mieux qu'ils l'aient du premier coup, quoi. Mais, alors, vous voyez, je pars d'un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais je me dis, après tout, d'abord, est-ce que cet enfant, il est chrétien? Est-ce qu'il connaît Dieu? Parce que s'il ne connaît pas Dieu et que tu lui mets une bagnole entre les mains, c'est un danger public, quoi. Et je ne suis pas sûr que... Imagine, il a un accident et après, tu as prié pour qu'il ait le permis, quoi. Je ne sais pas, c'est mon délire. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes, quelque part? Et je ne vais pas prier qu'il ne l'ait pas non plus. Mais je me dis, après tout, on est préoccupé par des choses qui, certes, sont notre quotidien. Bon, à l'époque, au moment du bac et des examens, je veux dire, si tu n'as pas ton bac, c'est la fin du monde, quoi. Ouais, mais quel est le projet de Dieu pour sa vie? Et je me dis, voilà, quand Paul il prie pour les Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Et je me dis que si nos jeunes, on pouvait aussi les nourrir avec ça, que ta vie, c'est pas ton diplôme. Il faut avoir des diplômes, il faut faire des études. Mais que ta vie, il faut que tu puisses... C'est le but de ta vie, c'est que tu connaisses Dieu, que tu le glorifies, que tu prennes plaisir en lui, que tu le connaisses et que tu saisisses l'héritage glorieux qui t'attend. Alors moi, je sais pas si je me fais des films, mais je dis, est-ce qu'on vit dans cette dimension qui est quand même éternelle et qui est tellement plus importante que toutes nos réalités terrestres? Alors, et encore une fois, là je suis hyper spirituel, vous allez me dire, parce que quand Paul écrit aux églises, il écrit à l'église d'Éphèse en Jésus-Christ, et il y a cette tension. On est sur la terre et on est au ciel en même temps. Et voilà, on parle dans cette tension, donc ce n'est pas quelque chose de gagné. On n'est pas désincarné. Voilà, j'essaie d'équilibrer un petit peu ce que j'ai dit. Mais je trouve que voilà, si on pouvait aussi, dans ce qu'on exprime à Dieu, dans ce qui fait nos soucis, des soucis qui soient... qui rejoignent l'essentiel, qui rejoignent le plus profond, et qui témoignent aussi peut-être de finalement ce qui est la réalité de Dieu dans nos vies. Alison, elle a des remarques tellement simples et profondes. L'autre fois, on était en train de pleurer devant les infos, quoi, avoir la misère du monde. Alors bon, c'est des infos, c'est rien du tout, quoi. Mais et puis elle me dit, voilà. Il faut qu'on prie, quoi, que Dieu se révèle. Et le monde, il a besoin de connaître Dieu. Et c'est la réalité. On aspire aujourd'hui à ce que le Seigneur revienne. Et voilà, tout mon discours et tout ce qui va suivre, là, c'est de vivre dans cette réalité-là aussi. Le filtre de la parole de Dieu pour interpréter ce qui nous arrive aujourd'hui. Comment est-ce qu'on lit ce qui se passe et dans nos vies et dans le monde. Et je crois que cela, c'est la place de la parole de Dieu, du Saint-Esprit dans nos vies, et que si on ne donne pas cette priorité à ce filtre, bah, il me semble qu'on passe à côté des ressources que Dieu veut nous mettre. Alors ce temps pour Dieu, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce qui dans ma vie, quelles sont les occasions dans ma vie où Dieu a le temps, où je suis à l'écoute de Dieu, et où je prends vraiment du temps pour qu'il puisse me parler, et comprendre, entendre ce qu'il veut me dire pour savoir comment agir. Donc c'est ce qu'on verra en fin d'après-midi.